Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, le variant anglais, il représente désormais au moins 1% des contaminations en France, de Roubaix à Marseille. La traque du Covid et de ses variants se poursuit. Quel risque pour les semaines à venir alors que le gouvernement doit annoncer demain de nouvelles mesures. On en parlera, Léa, à 7h50 avec votre invité.
Oui, avec une grande médecin qui, et c'est une espèce rare, n'est pas tous les jours sur les plateaux de télévision et de radio. Pour tout vous dire, ça fait 6 mois qu'on la poursuit. On va faire un point sur l'épidémie avec elle. La réanimatrice à l'hôpital Bichat à Paris, membre du conseil scientifique Covid-19, Lila Bouadma sera avec moi 7h50.
A tout à l'heure Léa. Les autres titres Agnès.
Des casse-têtes pour les voyageurs, de plus en plus de pays mais aussi de compagnies aériennes exigent des tests PCR. Reportage au Liban où les habitants se ruent dans les supermarchés à quelques heures d'un reconfinement très strict. Le dossier de la réforme des retraites est-il en train de revenir par la fenêtre ? Brassens avait plaqué son chêne, le Monde a plaqué 43 millions d'hectares de forêt en 13 ans. Et puis la magie Tintin opère toujours, avec un record en vue pour la vente aux enchères de la couverture originelle du Lotus Bleu.
Et un grand historien dans le grand entretien, Emmanuel de Varesquiel, auteur de 7 jours, 17-23 juin 1789, La France entre en révolution, c'est aux éditions Talendier et le Standard vous attend 01 45 24 7000.
France Inter.
C'est l'épidémie dans l'épidémie. Le variant anglais, apparu mi-septembre dans le Kent, représente aujourd'hui environ 1% des tests positifs au Covid-19 en France. Chiffre révélé hier par le ministre de la Santé. Avec la crainte d'un scénario à l'anglaise et d'une explosion des contaminations, c'est ce que redoutent les spécialistes, Véronique Julia.
1% de variants anglais retrouvés sur les 45 000 échantillons positifs auscultés, ça fait quand même 450 patients infectés avec le mutant britannique et c'est beaucoup plus que la trentaine de cas officiellement identifiés jusqu'à présent. La dispersion de ces cas serait uniforme sur le territoire et pas cantonnée à quelques zones en particulier, précise le ministre. Il n'empêche, 1% c'est loin d'être négligeable et plusieurs épidémiologistes considèrent que le pourcentage retrouvé, sans être pour l'instant catastrophique, n'a rien de rassurant. L'un d'entre eux nous fait d'ailleurs un calcul avec un taux de reproduction qui est de 1 en ce moment. La part du variant, qui est 60% plus contagieux, sera de 1,6% à la fin de cette semaine, puis de 2,5% la semaine suivante et ainsi de suite, ce qui nous mène à plus de 25% de variants début mars, ce qui est à peu de choses près ce qu'on retrouve en Grande-Bretagne actuellement. Tout cela évidemment si la situation épidémique en France reste en l'état et que le taux de reproduction n'augmente pas. Bref, on a encore un peu de temps pour réagir avant de connaître l'évolution britannique, mais déjà certains préviennent qu'un reconfinement serait la seule façon d'y échapper. Cette recherche du variant sur un échantillon de quelques dizaines de milliers de cas sera reconduite, précise Olivier Véran, tous les 7 à 10 jours pour mesurer sa progression.
Éviter les contaminations, cela passe par de nouvelles mesures. Conseil de défense sanitaire ce matin à l'Élysée pour acter les annonces de demain. Sur la table, un éventuel couvre-feu généralisé à 18h, un possible reconfinement le week-end, mais pas de changement dans les dates des vacances de février. Les chiffres publiés hier soir sont relativement stables. Autour de 19 000 contaminations quotidiennes, 360 décès en 24 heures et un taux de positivité à 6,5%. Pour éviter la propagation du Covid et de ses variants, l'Irlande exige désormais un test Covid négatif pour tous les voyageurs arrivant sur son sol. Pour les États-Unis, ce sera à partir du 29 janvier. Mais entre les consignes des aéroports, des compagnies aériennes et des pays, difficile de s'y retrouver. Reportage de Delphine Evenou à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle.
Pour poser le pied en France, hormis depuis l'Union européenne et une quinzaine d'autres pays, il faut montrer patte blanche. Alain débarque de Tunisie.
À l'arrivée à l'aéroport, j'ai fait tout à l'heure le test et c'était négatif.
Pas de septaine pour lui, comme pour ce quinquagénaire. Retour de vacances au Costa Rica, cueilli à sa descente d'avion à Paris. 2h30 d'attente pour un test antigénique obligatoire et une bonne partie de son vol y est passée.
Si je vous dis 95%, je pense que je dois être à peu près proche de la réalité parce qu'aucun de nous ne savait qu'il fallait passer un test Covid pour entrer en France.
Un peu plus loin, un couple un peu paniqué qui voulait partir en Guadeloupe.
On a notre test PCR négatif, sauf qu'à un moment d'embarquer, on nous a dit non, ça dépasse de quelques heures, vous ne pouvez pas embarquer.
Jonathan, lui, a bien réfléchi avant de prendre son billet pour la Thaïlande.
Si j'avais un vol avec transit, il faut faire un autre test PCR à l'arrivée d'un transit, par exemple si vous allez en Suisse ou en Allemagne. Mais si vous allez à Dubaï, il n'y a pas besoin d'un deuxième test. Donc ça dépend vraiment des compagnies aériennes. Le plus simple, c'est toujours des vols directs.
Étage supérieur du Terminal 2, un panneau test Covid gratuit pour les départs, 4 box. Niamel, l'infirmière superviseure de ce centre de dépistage.
Là, cette semaine, il y a eu pas mal de personnes qui voyageaient sur Montréal, qui n'étaient pas au courant que la législation avait changé et qui se voyaient refuser l'embarquement parce qu'ils n'avaient pas
pas fait leur test PCR.
Pour essayer d'y voir à peu près clair, un coup d'œil sur les sites des ambassades et de votre compagnie aérienne.
Reportage de Delphine Envenoux. L'Allemagne devrait aussi annoncer aujourd'hui le renforcement des contrôles aux frontières et la chancelière dit s'attendre au maintien des mesures de confinement jusqu'au début du mois d'avril. Reconfinement sévère en vue au Liban où l'épidémie est hors de contrôle selon l'expression du Premier ministre sortant. À partir de demain matin, 5h, les Libanais devront rester chez eux. C'est donc la ruée dans les supermarchés. Reportage de notre correspondant permanent à Beyrouth, Aurélien Colli.
Ambiance chaotique dans ce supermarché de Beyrouth. On fait la queue dehors car il y a trop de clients à l'intérieur. On fait la queue dedans car les caddies débordent. J'ai fait mes courses en deux temps. J'y suis allé hier et aujourd'hui, explique Youssef, qui doit aussi ravitailler sa sœur, une infirmière récemment contaminée et désormais cloîtrée chez elle. C'est de la faute du gouvernement qui ne planifie jamais, qui prend tout le monde de court. Et c'est aussi de sa faute car il n'a pas fait respecter les mesures sanitaires, accuse encore le quadragénaire, avant de partir avec une dizaine de sacs dans les mains. Moins chargé, plus âgé, mais tout aussi remonté, il y a Amal, elle en veut à ses compatriotes.
Tout le monde savait qu'on allait arriver à là.
Noël et jour de l'an célébrés comme si de rien n'était et un virus encore trop souvent considéré comme une fatalité.
C'est la responsabilité des gens qui sont inconscients, qui croient que c'est une blague et qu'il n'y a pas de Covid. Que Dieu nous protège.
Dans 24 heures, plus de queues, plus de supermarchés. Le Liban sera à l'arrêt pour au moins 11 jours. L'aéroport de Beyrouth, le seul du pays, va rester ouvert. Mais les conditions d'entrée ont drastiquement changé. Test PCR et isolement obligatoire à l'hôtel jusqu'au résultat, qu'on soit Libanais ou étranger. Beyrouth, Aurélien Colli, France Inter.
Situation toujours dramatique aux États-Unis avec un nouveau record de 4 470 morts en 24 heures et plus de 235 000 contaminations. Le maire de New York lance un appel concernant les stocks de vaccins qui seront épuisés, dit-il, d'ici la fin de la semaine. Les États-Unis où le feuilleton politique se poursuit. La Chambre des représentants vient de voter un texte demandant officiellement à Mike Pence d'invoquer le 25e amendement de la Constitution pour évincer Donald Trump du pouvoir. Nous serons à Washington dans le journal de 7h30.
Il est 7h08, Agnès. Il n'y a pas que le Covid dans la vie politique française.
Avec un séminaire gouvernemental aujourd'hui pour fixer un nouveau calendrier de réformes et dresser un bilan sous la forme d'un baromètre des promesses tenues. Le détail dans le journal de 8h. Certains chantiers ont bien été mis de côté par la crise, notamment l'emblématique réforme des retraites. Le gouvernement peut-il vraiment la remettre sur la table et si oui, comment ? Hélène Fili.
Jusqu'ici, Bercy pousse, préoccupé par la question de la dette. Mais une réforme d'économie serait difficile à faire accepter, alors même que les règles budgétaires ont volé en éclats et que le quoi qu'il en coûte vaut toujours. En coulisses, pourtant, on travaille bien à un texte, car il y a deux réformes. La réforme du financement, le travailler plus, l'âge pivot, et la création d'un régime universel en tant que tel. Le gouvernement juge toujours le système à points essentiel. Pourrait-il donc trouver une voie praticable d'ici à la présidentielle? Plusieurs options sont examinées. Le cadre pourrait être créé, la gouvernance mise sur pied, en gros la boîte à outils, quitte à laisser le temps ensuite à des discussions sur la convergence des régimes, la date d'entrée dans le système, que l'on soit cadre, notaire ou agriculteur. Mais même pour cela, tout est question d'espace politique, glisse un ministre, et je ne suis pas sûr, dit-il, qu'il existe avant 2022.
Des préliminaires entre Carrefour et Couche-Tard, c'est le groupe d'alimentation canadien qui est à l'initiative de ce rapprochement qualifié d'amical. Couche-Tard, c'est un réseau de plus de 14 000 magasins dans le monde, aux heures d'ouverture très élargies, et qui propose aussi des magazines et des cigarettes. Carrefour revendique de son côté 12 300 magasins. La circulation est de nouveau possible, mais reste difficile sur l'A40 à la lisière de l'Ain et de la Haute-Savoie. Hier soir, plusieurs centaines de personnes et de poids lourds se sont retrouvés piégés par d'abondantes chutes de neige. Des gymnases ont été ouverts à Valseronne, Collonges et Léaz pour accueillir les automobilistes bloqués. La Haute-Savoie qui reste en vigilance orange pour des risques de neige et de verglas. Neige également attendue dans le nord-est des Ardennes, aux Vosges. 43 millions d'hectares de forêts ont disparu en 13 ans. Alerte du WWF dans un nouveau rapport publié ce matin. La faute à l'agriculture et à l'élevage. Et la déforestation, sans dit dauphin, n'épargne aucun continent.
Le rapport identifie 24 fronts de déforestation à travers le monde, aux plus connus, Amazonie, bassin du Congo en Afrique centrale ou encore bassin du Mékong et Indonésie. S'ajoutent désormais de nouvelles zones rouges en Afrique de l'Ouest, au Libéria, Côte d'Ivoire, Ghana et en Afrique de l'Est, par exemple à Madagascar, mais aussi en Amérique latine, au Mexique et au Guatemala. Au total, 43 millions d'hectares ont été perdus dans ces régions en l'espace de quelques années. Et la la forêt qui reste est fragilisée, 45% a subi une forme de fragmentation. Les causes sont désormais bien identifiées, on défriche pour l'élevage de bovins, la culture de soja et l'huile de palme, le commerce du bois ou encore l'extraction minière. D'après le WWF, la consommation en Europe est responsable de plus de 10% de la déforestation mondiale parce qu'on importe du bœuf, du soja pour l'alimentation animale, du café, cuir, cacao, caoutchouc et huile de palme. La Commission européenne doit justement proposer un projet contre la déforestation en 2021.
Infographie sur cette déforestation mondiale à retrouver sur franceinter.fr. Les pires passoires énergétiques ne pourront plus être louées. La ministre déléguée au logement a annoncé que les logements dont la consommation énergétique excède 450 kW par mètre carré et donc classés G ne pourront plus être proposés à la location à partir de 2023. Cela concerne environ 90 000 logements. Enfin, Tintin et Milou, cachés dans une jarre chinoise en faïence bleutée face à un dragon rouge en colère, sur fond noir parsemé de signes mystérieux. Célébrissime couverture originelle du Lotus Bleu, un dessin de 34 cm sur 34 estimé entre 2,3 et 2,8 millions d'euros qui sera mise en vente aux enchères demain. Une pièce exceptionnelle dont l'origine crée pourtant une certaine polémique. Jacqueline Petros.
Quand Hergé envoie ce dessin à l'encre de Chine et gouache à son éditeur, Louis Casterman le refuse. Trop cher à l'impression. Le dessin est alors offert à son fils âgé de 7 ans. Une histoire contesté aujourd'hui par Nick Rodwell, le mari de la seconde épouse d'Hergé, est qualifié de fable par certains connaisseurs. Éric Leroy, spécialiste de la bande dessinée chez Arcurial, tient cette histoire du propriétaire lui-même.
Nous, chez Arcurial, on a fait notre travail, on a demandé des témoignages. Il a été offert à Jean-Paul Casterman lorsqu'il était jeune enfant, qu'il l'a plié pour le ranger dans un tiroir. Il m'avait raconté l'anecdote. Dans le milieu des années 90, je l'avais rencontré. Donc tout cela confirme une seule chose finalement, c'est que cette pièce est fantastique, voilà, c'est tout.
Foin de polémique pour les fans d'Hergé, eux ne voient que la qualité du dessin et les estimations sont le reflet de la fascination qu'Hergé exerce toujours. Éric Leroy.
Hergé, c'est tout le XXe siècle, c'est 1907 à 1983, c'est un des rares artistes comme Picasso qui a connu le succès de manière croissante tout au long du XXe siècle. Et finalement, comme dit Michel Serres, j'ai rencontré qu'un seul génie dans ma vie, c'est Hergé.
La vente offre d'autres pépites, une planche crayon des bijoux de la Castafiore estimés à plus de 100 000 euros, mais aussi des albums ou des dessins à partir d'une petite centaine d'euros.
Et la vente, c'est demain chez Arcurial à partir de 14h15.
Merci Agnès Soubiran.